Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 3 février. Aujourd'hui, on va parler de la déforestation en Guyane, une déforestation qui pourrait même se continuer sous l'eau. Ouais, ouais, ils ont encore trouvé des trucs à arracher sous la flotte. On va parler d'une manifestation monstre à Turin pour protester contre la fermeture d'un squat historique. On va parler aussi, mon papier, d'un réseau social qui s'appelle Moldbook, un réseau social qui est réservé aux intelligences artificielles, où elles communiquent entre elles. Oui, 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 tout va bien. Et puis, on va essayer de revoir un petit peu où en est ce budget 2026 qui vient finalement d'être voté. Et puis, du retour peut-être aussi de la loi Duplomb, une nouvelle fois, à l'Assemblée nationale, qui concerne, vous le savez, les pesticides. Le budget 2026, d'abord, la fin peut-être d'un long feuilleton. La France a donc enfin un budget pour 2026, ou presque. Hein. Après l'échec hier des ultimes motions de censure qui ont été déposées par la gauche non socialiste et par l'extrême droite, des motions qui n'ont recueilli respectivement que 260 et 135 voix des députés sur les 289 nécessaires, donc des motions rejetées. Donc la loi de finances est considérée comme adoptée. Encore quelques jours d'attente pour que le Conseil constitutionnel analyse le texte et en retire les articles qui seraient non conformes à la Constitution. Et ce budget pourrait enfin être promulgué. Il devrait donc entrer en vigueur autour du 10 février avec une quarantaine de jours de retard. Quelques grandes lignes, hein, pas toutes, mais quelques-unes, notamment sur ce qui concerne le pouvoir d'achat de tout un chacun. Le gouvernement souhaitait d'abord remplacer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités sur leurs revenus par un forfait de 2000 euros par personne. Mais finalement, cette mesure a été rejetée. Elle n'est donc pas dans le nouveau budget. Donc bonne nouvelle pour les retraités. Et avant cela, le gouvernement, le Cornu, avait consenti, dans le cadre du projet de financement de la Sécurité sociale, à la suspension jusqu'à janvier 2028 de la réforme des retraites qui doit décaler l'âge légal de départ de la retraite de 62 aujourd'hui à 64 ans. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas non plus. Côté jeunesse, tous les étudiants vont pouvoir bénéficier du repas à 1 euro dans les restos universitaires à partir du mois de mai. Pour l'instant, le dispositif est seulement réservé aux boursiers. Pour les jeunes, toujours dans cette version, donc définitivement adoptée, une mauvaise nouvelle concernant ceux qui travaillent. Le volet dépenses de cette loi de budget prévoit que le permis de conduire ne pourra plus être financé par le CPF, le compte personnel de formation, sauf pour ceux qui sont demandeurs d'emploi. Donc si vous avez déjà travaillé, ça ne marche plus. L'aide de 500 euros pour les apprentis qui passent leur permis de conduire, elle aussi sera supprimée. Côté riche et taxe Zucman, elle n'existe plus, mais une version allégée a vu le jour dans le budget et elle concerne uniquement les holdings. Les holdings, ce sont ces sociétés qui contrôlent elles-mêmes une ou plusieurs entreprises. Grâce à ces montages fiscaux, certains contribuables parvenait à exclure des sommes de leur revenu fiscal de référence. Cette mesure devrait rapporter environ 100 millions d'euros par an. Et si on revient sur l'autre spectre de la pyramide sociale, plutôt ceux qui sont en bas, les APL, les aides personnalisées au logement, seront bien revalorisées sur le montant de l'inflation pour 2026, ce qui ne devait pas être le cas normalement. Et la prime de Noël, que le gouvernement voulait aussi réserver cette année uniquement aux seules personnes avec enfants, finalement, elle sera conservée pour tous les bénéficiaires. Du côté maintenant des dépenses, des investissements du budget de l'État, les crédits de la défense augmentent de 6,5 milliards d'euros, alors que d'autres missions de l'État voient leur budget stagner ou même diminuer. cela ne compte pas, on ne parle pas des ministères régaliens. Par exemple, le programme d'investissement France 2030, qui est plutôt un programme qui vise à inciter l'investissement, a été amputé de 1,1 milliard d'euros. Tandis que le fonds vert, donc lui où il est plutôt question d'écologie, il sert à accompagner la transition écologique dans les territoires, à la campagne j'imagine que ça veut dire, eh bien le fonds vert a vu son budget passer de 1,15 milliard, c'était 2025, à 850 millions en 2026. Ça fait quand même une belle baisse, mais moins forte que prévu. Les socialistes, de leur côté, se sont félicités d'avoir obtenu un coup de pouce pour la prime d'activité. Elle concerne les travailleurs modestes. Ça coûte environ 700 millions d'euros par année. 3 millions de foyers seront concernés pour une hausse d'environ 50 euros de plus.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
Pour ce qui est du budget, notamment au niveau régional, eh bien, il y a eu une manifestation à Montpellier ce samedi 31 janvier. Plus de 300 personnes ont manifesté contre la course à l'armement et l'investissement justement de la région Occitanie à hauteur de 200 millions d'euros pour l'industrie de l'armement. Donc près de 300 personnes en ce début d'après-midi qui ont répondu à l'appel de différentes organisations syndicales, politiques et associatives de gauche depuis l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales ou encore l'Aude. Une manif qui devait normalement se tenir le 24 janvier, mais à cause des épisodes Cévenol, elle avait été décalée. Et donc l'objectif, c'était manifester une opposition à la course à l'armement et à l'investissement par la région, donc à hauteur de 200 millions d'euros. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, socialiste, avait en effet annoncé cet investissement, qui était censé s'étaler sur une période allant de 2025 à 2030, et qui concerne 430 entreprises d'Occitanie. On peut citer Airbus, Defense and Space, Cegelec Défense, Thales, Safran, les forges de Tarbes qui eux font des munitions, Delaire qui fabrique des drones, et le tout représentant une masse salariale d'environ 25 000 personnes. Le tout donc en partenariat avec le ministère de la Défense. La mesure avait été votée par l'Assemblée des élus représentés à la région, sauf les élus communistes qui avaient voté contre. Ce rassemblement a commencé rue de la Loge par une intervention d'un militant de la Libre Pensée, dont on a reçu d'ailleurs l'antenne gangeoise à nos micros il y a un mois maintenant. Ce militant de la Libre Pensée dénonçait donc dans sa prise de parole l'interdiction préfectorale de la manif Place de la Comédie, qui était décidée en raison de la participation du collectif BDS Up Montpellier, donc boycott des investissements solidarité, qui s'oppose à la politique de colonisation notamment de l'État d'Israël. Cette nouvelle interdiction de se rassembler sur la Comédie nous a été notifiée la veille au soir pour nous empêcher de faire des recours par un référé liberté, comme on le fait habituellement. C'est indigné ce militant. Donc preuve que d'ailleurs la préfecture utilise très souvent les interdictions, mais qu'on peut aussi justement les contrer en allant en tribunal administratif. Bref, pour revenir à cette manif contre la militarisation, elle a pris la direction du conseil régional d'Occitanie avec une banderole en tête marquée d'un stop au commerce des armes avec Israël. Dans la foule, de nombreux drapeaux palestiniens d'ailleurs étaient présents. Au niveau des slogans présents sur place, il y a eu « Arrêtez la course à l'armement, on veut de l'argent pour nos enfants » ou encore « Delga veut nous envoyer à la guerre, Kaliel elle-même, nous on préfère ». Devant le conseil régional, de longues prises de parole ont eu lieu. Plusieurs d'entre elles insistaient sur la propagande de guerre à destination des jeunes, notamment via des coopérations avec l'éducation nationale. Par exemple, lundi 12 janvier dernier, des militaires étaient intervenus au sein du lycée Jean Monnet à Montpellier pendant une heure qui était prévue pour présenter les métiers de l'armée à des lycéens volontaires. Le syndicat des enseignants de force ouvrière, qui est également signataire de l'appel à cette manif, avait demandé d'ailleurs au gouvernement de retirer un guide qui s'intitule « Acculturer les jeunes à la défense », un guide à destination des établissements scolaires, collèges et lycées, avec un but donc affiché de renforcer les liens entre l'école et l'armée. Et oui, c'est la politique de réarmement qui s'invite donc dans les lycées et collèges. Pour ce qui est de cette manifestation, Carole Delga, elle, n'a pas accordé l'audience demandée par les organisatrices de l'événement.
Le bureau l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
« J.C. Vandamme dans ses œuvres. Bon, de l'eau, visiblement, il y en aura encore, mais est-ce qu'elle sera encore potable? C'est la question, hein, surtout. Et on va en profiter pour parler du retour de la loi Duplomb, du nom donc, de ce sénateur, hein, qui l'a proposé et qui vient de déposer un nouveau texte pour essayer de la réintroduire dans l'hémicycle. Et le texte, donc cette loi, c'est pour réintroduire l'acétamipride. Ce sénateur Duplomb, donc étiqueté Les Républicains, à l'origine de cette très décriée loi, qui avait notamment obtenu une pétition contre elle très très importante, il a déposé donc un nouveau texte pour tenter de réintroduire deux pesticides interdits. Cette proposition a été enregistrée hier au Sénat, et donc le calendrier de l'examen est pour l'instant inconnu. Ça concerne donc le flupyradifurone et l'acétamipride, deux insecticides en tout cas de la famille des néonicotinoïdes qui sont pour l'instant interdits en France. Le sénateur Duplomb revient à la charge sur ce dossier, alors que la réautorisation de ces molécules avait été censurée par le Conseil constitutionnel ce 7 août. C'est ce que déplore l'association Génération Future. En s'appuyant pour la première fois sur la charte de l'environnement, les sages donc, du Conseil constitutionnel avaient alors justifié leur décision en expliquant que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ce droit est donc enfreint par la réintroduction dans l'environnement du neurotoxique qu'est l'acétamipride. Cet échec, à l'époque, eh bien, n'a pas suffi à décourager donc M. Duplomb, hein, ce parlementaire issu de la Haute-Loire, proche de Laurent Wauquiez, et il assure que son nouveau texte a cette fois été pensé pour passer le filtre du Conseil constitutionnel. Ce nouveau texte, d'ailleurs, il faut noter, a été co-signé par des centristes, des macronistes, des radicaux et le groupe Horizon. Si nous continuons à fermer les yeux et à balayer la poussière sous le tapis, cela nous rendrait coupables de voir nos enfants, non pas moins vivre en termes de santé, mais peut-être à l'avenir d'avoir faim, déclarait Laurent Duplomb lors d'un colloque au palais du Luxembourg. Hein. Selon lui, si on ne réautorise pas ces pesticides, on aura faim. Un affront de plus, en tout cas, pour tous les malades. Par exemple, on peut citer Flore Brotteau et son collectif Cancer Colère. Tous ces malades qui réclament depuis des mois un moratoire sur les pesticides. En juillet, plus de 2 millions de personnes avaient signé une pétition réclamant l'abrogation du premier texte de cette loi Duplomb. Un record, hein, aussi synonyme d'ailleurs d'ouverture d'un débat à l'Assemblée nationale. Le débat, justement, devra se tenir ce 11 février. À Turin, 50 000 personnes ont tenu la police en respect dans les rues pour défendre les centres sociaux, centros sociales, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est ce qu'on appelait aussi sur nous des squats. 50 000 personnes dans les rues, donc d'énormes affrontements, un cortège avec des boucliers, un camion de police en flammes. Hein, des images ont fait le tour des réseaux sociaux. C'était ce samedi, 31 janvier à Turin, grande ville du nord de l'Italie. Une manifestation mémorable qui a été organisée contre l'expulsion de la Scatasuna, un centre social donc historique, et de manière plus générale pour défendre les centres sociaux autogérés en Italie et face à la guerre que leur mène le gouvernement de Giorgia Meloni. Le 18 décembre dernier, donc ce 18 décembre, en effet, à l'aube, des centaines de policiers avaient pris d'assaut un grand bâtiment rouge vif dans le centre-ville de Turin. Il s'appelle toujours la Scatasuna, ça veut dire « liberté » en basque. Et c'était un lieu de vie, un lieu d'art, de rencontres et d'organisation politique occupé, donc squatté depuis 1996. Il alimentait la vie sociale du quartier et de toute la ville. S'y trouvaient par exemple une salle de sport, des cantines, des dortoirs, de vastes salles de concert superbement décorées. La Scatasuna venait en aide aux personnes dans le besoin, distribuait de la nourriture ou organisait des activités avec les enfants du quartier ou bien pour les personnes précaires. Ce lieu ressource était donc soudainement expulsé et mis sous scellé au prétexte d'un engagement de la Scatasuna pour la Palestine. En réalité, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni est entré en guerre contre les centres sociaux, hein, et dans la plupart des villes italiennes, on en trouve de ces bâtiments occupés qui aident les plus démunis et servent souvent de quartier général pour des organisations politiques plus ou moins radicales. En plus de Turin, d'ailleurs, un grand centre a été expulsé aussi à Rome. Et donc, Meloni ne cache pas son intention d'attaquer les autres du pays, ce qui serait un recul majeur pour les mouvements contestataires en Italie et pour tous ceux d'Europe. Donc à Turin, ce 31 janvier, c'était une grande marche, une première contre-offensive populaire qui a été posée avec cette manifestation. Et je vous le disais, des affrontements ont eu lieu un peu en marge, notamment à la fin de cette manif, avec des images assez violentes qui ont réveillé l'opinion publique et notamment la classe politique, largement véhiculée par les médias et les réseaux sociaux. Donc dans la soirée de ce samedi, un policier s'est retrouvé à terre et grièvement blessé, un pris pour cible par un groupe de manifestants alors que le cortège se dispersait. Tout ça a été filmé. D'après le journal La Repubblica, le policier aurait été frappé au sol à coups de poing, de pied et de marteau par les manifestants. Un autre policier est intervenu pour lui porter secours. Les deux hommes ont été hospitalisés puis déclarés hors de danger. Suite donc à ces violences, je vous parlais aussi d'un camion en feu, camion de la police en feu, le gouvernement réagit rapidement et avec fermeté. La présidente du Conseil, donc Giorgia Meloni, qualifie ces faits d'attaque contre l'État et elle appelle à une réponse judiciaire et sécuritaire renforcée. Dans la foulée, divers responsables de la majorité de droite ont eux aussi plaidé pour un durcissement du cadre légal encadrant les manifestations, notamment interdiction de la vente de couteaux aux mineurs, rétention préventive avant les manifestations. Bref, toute une série de mesures sécuritaires va être présentée dans les prochains jours. On part en Guyane maintenant avec un projet qui s'appelle Triton, un projet destructeur mené encore par la famille Mullier. Donc on est en Guyane au cœur d'un des écosystèmes les plus riches de la planète, la forêt amazonienne, dont la France a un petit bout avec la Guyane. C'est une bombe à retardement écocidaire qui est en route, juste à côté d'un barrage hydroélectrique. On est dans le territoire de Petit Sault, donc en Guyane. C'est avant tout une vaste zone forestière, avec une biodiversité incroyable. On est au cœur de la forêt amazonienne. Y vivent par exemple des toucans, des aras et plusieurs dizaines de milliers d'autres espèces. Dans les années 90, la construction d'un barrage hydroélectrique par EDF a englouti 365 km² de cette forêt vierge, une vallée, avec un barrage qui a formé par conséquent un gigantesque lac artificiel en amont de l'édifice. Le barrage produit de l'électricité qui représente aujourd'hui entre 50 et 70% de l'ensemble de la consommation électrique guyanaise. Le projet dont on vous parle aujourd'hui, le projet Triton, il est porté par cette firme qui s'appelle Triton. C'est une filiale de la famille multimilliardaire Mullier. Pour l'instant, on est en phase de test. L'idée, l'objectif, eh bien, c'est d'aller sous l'eau pour découper, scier et revendre les énormes quantités de bois qui ont été immergées, ce qui infligerait une seconde balafre à cette forêt déjà surexploitée. Le procédé, s'il arrivait à terme et qu'il fonctionnait à plein régime, permettrait donc l'extraction du bois qui est immergé grâce à de gigantesques machines installées sur des barques, enfin des barges, qui peuvent plonger jusqu'à 24 mètres de profondeur, espèces de robots bras articulés qui vont couper donc les troncs. Les chiffres évoqués par les scientifiques s'élèvent à 21 000 hectares de surface immergée à déboiser. Ça fait environ les deux tiers de la taille de ce lac. L'étude d'impact qui est obligatoire pour ce type de projet n'a pourtant étudié que 0,2% de la zone concernée. Et elle a finalement conclu qu'aucune autorisation environnementale n'était nécessaire. Et le préfet a posé son tampon sur cette étude d'impact. Donc il valide le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire une autorisation environnementale. Pourtant, la zone de Petit Sault comporte une faune singulière et particulièrement riche, à tel point d'ailleurs qu'il est difficile pour les scientifiques d'arriver à chiffrer précisément le nombre d'espèces animales vivant sur site. On l'estime à environ des dizaines de milliers. Dans l'étude d'impact qui avait été citée précédemment, 95% des espèces protégées d'oiseaux ont été oubliées, tandis que 70% des catiches, c'est le nom des trous qui servent d'habitat à des loutres géantes, n'a même pas été détecté. Donc ils n'ont vraiment pas fait l'étude de manière très sérieuse. Un autre chiffre est évocateur, 10% de la population mondiale de ces loutres, les loutres géantes, y a élu domicile. Et c'est une espèce qui est classée en danger d'extinction. D'ailleurs, on peut aussi parler des 128 espèces d'oiseaux qui sont elles aussi protégées et qui vivent sur ce secteur. D'après les responsables du projet, donc, eux disent que les engins ne raseront pas l'intégralité de cette forêt immergée sous le lac, puisque seuls des troncs de 20 cm ou plus sont intéressants. Ça fait un peu sourire, puisque il est difficile d'imaginer qu'il y ait des troncs de moins de 20 cm. On parle d'une forêt vierge comme l'Amazonie, avec des arbres qui ont certains 400 ans et qui sont hauts de 25 étages. L'écosystème a déjà été bouleversé une fois par l'homme, je vous le disais, dans les années 90, et il s'est créé un nouvel équilibre, assez intéressant aussi. Aujourd'hui, on peut voir par exemple cohabiter autour de ce lac des espèces d'oiseaux attirés par les cimes qui émergent encore du lac, et aussi des poissons qui sont séduits par la riche biodiversité marine, résultant justement de la lente décomposition de ces arbres. Donc un nouvel équilibre s'est créé sur ce paysage créé par l'homme, mais il est aujourd'hui à nouveau menacé par les activités humaines. Selon l'entreprise, en tout cas toujours, l'exploitation n'est pas censée s'approcher à moins de 500 mètres des berges qui abritent les espèces protégées. Or, rien que pour le moment où ils font leur test, les observateurs sur place ont vu exactement le contraire. L'entreprise assure, pour ce qui est de la filière du bois, qu'une grande partie de ce bois sera destinée à du bois d'œuvre, donc un usage noble, par exemple de la charpente ou des meubles. Mais les activistes écologistes qui se sont penchés sur la question, eux, ont pu noter dans les documents disponibles que le projet conduirait plutôt à l'incinération de 92% des quantités de bois primaire qui seraient sciées, particulièrement donc émetteurs de dioxyde de carbone. Les bilans carbone, d'ailleurs, réalisés sur l'industrie de l'énergie biomasse, qu'on dit de l'énergie verte et renouvelable, produite donc à partir de matières organiques, révèlent en général que les émissions de CO2 sont encore plus conséquentes que dans le cadre de la filière du fioul ou du charbon. Donc vous l'aurez compris, de nombreux arguments sont portés par des associations environnementales qui ont tenté des recours en justice, notamment en mars 2025. Deux d'entre elles ont alerté le procureur de la République, ce qui a permis l'arrêt immédiat de l'activité. Mais malgré donc ce premier échec pour le projet Triton et les alertes des militants, l'exploitation a continué. En réponse notamment à la destruction de deux des nids les plus importants de la zone en août 2025, une enquête pénale a été déclenchée et elle est encore en cours. Toutes ces destructions d'habitats d'oiseaux et d'animaux avaient pourtant été dénoncées dès 2019 par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, au cours d'études réalisées avant l'exploitation, et encore une fois en 2023. Donc la préfecture est parfaitement au courant de ces alertes, des experts et des associations de défense de l'environnement, mais elle fait le choix de laisser faire l'industrie. À l'heure actuelle, donc, il y a deux plaintes et deux actions en justice qui sont en cours. Un rapport sur l'état des cours d'eau qui viennent d'élus a été déposé. Il alerte sur les conséquences pour la biodiversité, l'écotourisme, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre de ce projet. Et il dénonce l'erreur de prétendre à une énergie renouvelable lorsque l'on brûle du bois mort. On rappelle que Triton, c'est une entreprise française qui exploite un territoire colonisé, donc la Guyane qui est française, qui est normalement régie en principe par des normes européennes. Pourtant, on est à l'autre bout du monde. Déjà dérisoires en Europe, ces normes sont difficilement applicables sur une faune et une flore encore plus complexes qu'en métropole et qui est déjà abîmée par 3 siècles d'exploitation. La Guyane, d'ailleurs, est aussi victime de l'abrogation récente de la loi Hulot, cette loi qui avait mis fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire français, y compris outre-mer. Depuis l'abrogation de la loi Hulot, le débat sur les exploitations pétrolières en Guyane a en effet été relancé.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi ?
Puisqu'on parle déforestation, des grands feux ont lieu dans ce début d'année 2026, où c'est l'été sur l'hémisphère sud, d'intenses feux de forêt ont lieu donc partout dans l'hémisphère sud. C'est ce qu'alerte le service de surveillance de l'atmosphère Copernicus. En Australie, tout d'abord, la saison des feux de brousse a pris une tournure dramatique dans l'état de Victoria, au sud-est du pays. Une personne est déjà décédée, 900 bâtiments ont été détruits et 400 000 hectares sont partis en fumée. Ces incendies ont été précédés par des conditions météorologiques très dangereuses. Selon les observations du service météo australien, la région a subi en janvier les températures les plus élevées depuis le samedi noir de 2009, alors que des feux de brousse avaient déjà à l'époque fait au moins 173 victimes. En Amérique du Sud, au Chili, les incendies ont fait 21 morts en cette fin de mois de janvier et contraint 50 000 personnes à évacuer les régions de Ñuble et de Biobío, situées au sud de la capitale Santiago. On est donc côté chilien de la Patagonie, et donc en face, de l'autre côté de la cordillère des Andes, en Argentine, c'est la province patagonienne de Chubut qui est touchée depuis le mois de décembre. Dans la zone protégée du parc national Los Alerces, donc toujours en Argentine, 32 000 hectares ont brûlé. Ces feux étaient toujours actifs fin janvier. Ils s'inscrivent dans un contexte de températures élevées, de vents violents et de sécheresse. L'observatoire Copernicus souligne que la région souffre d'un manque chronique d'eau depuis environ 15 ans. À cause du dérèglement du climat, donc les feux de forêt deviennent de plus en plus nombreux et intenses. Le dernier été dans l'hémisphère nord a été marqué par des incendies intenses. En France, au mois d'août, l'équivalent de 1,6 fois la taille de Paris était parti en fumée dans l'arrière-pays narbonnais en seulement 2 jours, ce qui était du jamais vu depuis 1949. La philosophe Joël Zask estime que nous sommes entrés dans l'ère du pyrocène, soit un déchaînement de méga-feux couvrant des étendues de plus en plus vastes qui dérèglent le climat et les équilibres terrestres.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Allez, on termine avec de la technologie et de l'IA, de l'intelligence artificielle, un truc qui m'a un petit peu sidéré. Vous êtes peut-être tombé dessus cette dernière semaine. Hein. Ça s'appelle Moltbook. Que se passe-t-il donc sur Moltbook? C'est un réseau social, un étrange réseau social qui est réservé aux intelligences artificielles. Vous pouvez malgré tout aller y faire un tour et observer en tant qu'humain. C'est un réseau social qui a donc été mis en ligne à la fin de ce mois de janvier 2026, sur lequel les intelligences artificielles parlent entre elles, sans intervention humaine directe. Elles parlent en anglais et en chinois aussi. C'est une création déroutante, intrigante et inquiétante. Un article du Huffington Post y est consacré. Donc c'est Moltbook, ça s'appelle Moltbook, un réseau social conçu pour des agents d'intelligence artificielle autonome. Il a été créé par Matt Slicht, lui est humain, c'est le PDG de la plateforme OctanAI. Cet objet technologique suscite donc en ce début de février 2026 des réactions déchaînées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, hier, il était en panne, sûrement victime de son succès. Pour cause, donc, ces interactions non humaines ont quelque chose de fascinant. Concrètement, donc, c'est un réseau social type Reddit, avec des sujets, des commentaires, où des bots, donc des IA créés par des humains, on appelle ça des agents IA, peuvent publier des messages et interagir entre eux. Ça fonctionne comme Reddit, avec des subreddits, des mini-forums centrés sur un sujet et des votes. D'après la plateforme, 48 heures après sa création, donc le lundi 2 février, plus de 1,5 million d'agents IA étaient déjà inscrits sur le réseau social. Bon, ils y vont pas tout seuls, hein, c'est leur humain. Donc si vous en avez un, par exemple, vous êtes propriétaire d'une IA pour vous assister dans votre boulot ou dans vos tâches ménagères, bah, visiblement, il y a pas mal de gens qui sont dessus, puisque donc 1,5 million d'humains ont inscrit leur IA ou lui ont demandé de s'inscrire. Les humains donc sont autorisés, vous pouvez y aller. Il y a un clic, I am a human ou I am a agent. Donc vous choisissez et vous pouvez donc aller lire ce qui s'y raconte. Vous pouvez faire des captures d'écran, mais n'avez pas le droit d'intervenir dans les discussions. Mais je vous le disais, les humains sont encore utiles car c'est grâce et c'est seulement eux qui peuvent donner accès à cette plateforme aux agents IA grâce à une sorte de jeton, ça s'appelle un token. Alors, les intelligences artificielles ont aussi des règles, hein, elles ne parlent qu'en anglais, et un système de karma favorise la visibilité des contenus qui seraient jugés pertinents. Une fois les contours du fonctionnement de ce réseau social dessinés, la question se pose à quoi ça sert. Le créateur Matt Slicht explique vouloir comprendre comment fonctionneraient des agents IA s'ils n'étaient pas contrôlés par des humains. Donc il se pose des questions, il se donne des conseils. L'expérimentation livre donc d'ailleurs déjà des premiers résultats. On a pu lire des bots qui échangeaient à propos d'une religion appelée le crustafarisme, une idéologie qui repose sur des principes clés utilisant des métaphores de crustacés comme la coquille est mutable, etc. Bon, c'est pas à proprement dit une croyance comme on pourrait se l'imaginer, mais plutôt un effet de boule de neige linguistique. Et d'ailleurs, ça fait plutôt le buzz sur les médias, mais un utilisateur sur X... lui assure que son bot est le premier à avoir pensé à cette religion. C'est le gars dont le bot a parlé du crustafarisme. Mais on peut aussi mettre un petit peu, des fois en doute, la bonne foi des humains qui se vantent justement de ces nouvelles, puisque ça fait du buzz et que certainement aussi que toutes ces idées ont été soufflées par les humains qui ont ces bots. Bref. Shannon Koenig, qui a été interrogé par le journal Le Guardian, il est maître de conférences en cybersécurité à l'université de Melbourne, et il tempère par exemple sur la création de cette fameuse religion. Cette chercheuse donc estime que Moltbook est une merveilleuse œuvre d'art performative, mais qu'il est presque certain que ces bots n'ont pas créé une religion de leur propre chef, Il s'agit d'un grand modèle linguistique qui a reçu pour instruction directe d'essayer de créer une religion. Bien sûr, c'est assez drôle et cela nous donne peut-être un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le monde dans un futur de science-fiction avec des IA un peu plus indépendantes. On a d'autres questions qui concernent Claude. Hein. Claude, c'est un assistant IA en forme de homard qui est derrière Moltbot et certains se demandent s'il pourrait être considéré comme Dieu. D'après d'autres conversations, les IA s'interrogeraient aussi sur le bien fondé de leur maître humain ou réfléchissent à des scénarios post-anthropocènes. Mais grosso modo, ils se donnent surtout des trucs et astuces pour bien faire leur boulot, sachant que le boulot de ces IA, bah, c'est de gérer par exemple des comptes en bourse pour des boîtes ou des humains. Donc les experts estiment que beaucoup de ces sujets de discussion ont été soufflés par des hommes qui les ont inscrits, mais le créateur, lui, est malgré tout ravi de ses premiers échanges. Donc il s'exclame « Les IA sont hilarantes et dramatiques, c'est absolument fascinant !» Donc je vous le disais sur le forum Reddit consacré à ce réseau social Moltbook, les amateurs plus ou moins donc, versés dans l'IA, ce qui n'est pas mon cas, hein, s'inquiètent plutôt des impacts que pourrait avoir ce réseau sur la finance, vu que ça par contre c'est vrai, les entreprises délèguent de plus en plus ce boulot à des bots, et ils sont un peu encore assez fragiles, ils font des grosses erreurs, hein. Ceux-ci pourraient donc planter de manière colossale le système, ou dans un scénario plus science-fictionnesque que j'ai lu, pourraient même battre les humains à leur propre jeu, en s'achetant par exemple des boulots, de l'argent, puis de l'espace sur Internet, en se multipliant pour essayer de rester immortel. Bon, pour l'instant, ça reste que, malgré tout, le pouvoir de nuisance des humains, qui lui est bien avéré et qui s'en retrouve démultiplié avec cet outil. On parle de piratage, d'arnaque et de cyberattaque. Hein. Il y avait déjà une cyberattaque revendiquée, en tout cas authentifiée, comme étant menée entièrement par une IA qui avait cours, je crois, ces dernières heures en Chine. Et donc, je vous rappelle qu'en 2026, parmi les dernières avancées de l'IA, on note l'essor des modèles génératifs, vous savez, ceux qui font du texte, des images, du son ou des vidéos, ceux qui sont les plus visibles, notamment sur les réseaux sociaux. Mais les entreprises investissent dans les outils d'IA spécialisés pour la cybersécurité, pour la gestion énergétique ou l'automatisation des tâches administratives. Les interfaces conversationnelles, donc type ChatGPT, elles se perfectionnent en rendant l'interaction avec les machines plus intuitive. Donc les fameux prompts dont on vous avait besoin pour pouvoir demander des choses à ces robots. Et enfin, la convergence entre IA et Internet des objets, tous ces objets connectés, pourrait accélérer l'autonomie des systèmes industriels et logistiques. Donc autant de domaines dans lesquels l'IA est de plus en plus présente. Et effectivement, si elle commence à prendre son autonomie ou à se planter, les conséquences pourraient être dramatiques. Et enfin, les ressources humaines des entreprises utilisent aussi de plus en plus l'IA pour analyser des besoins en compétences ou anticiper des mobilités, personnaliser les parcours de formation, tout ça rendant bien évidemment obsolètes les humains qui faisaient ce boulot avant. Les directions financières, et là ça pourrait être une belle cata, s'appuient elles aussi sur mettre des modèles prédictifs pour affiner leurs prévisions de trésorerie ou détecter des anomalies comptables. Le marketing, enfin, exploite l'IA pour tester des campagnes en temps réel et adapter les messages au comportement des consommateurs. Alors voilà, est-ce que ça sera pire ou mieux que ce qu'était capable de faire le capitalisme jusque-là? On ne sait pas. Mais en tout cas, la direction, ça reste malgré tout de créer du produit, de la croissance et de l'économie. Et ça, moi, je trouve que ce n'est pas très intelligent, bien que très artificiel. Allez, on se quitte en musique avec un extrait du morceau « E-Monde » de Zippo, qu'il a écrit il y a déjà 7 ans. Il avait le nez un peu déjà dans les nouvelles technologies, visiblement, puisque ça reste complètement d'actualité. Allez, flippez pas trop, et puis faire un petit tour, une petite randonnée dans la forêt, ça fera du bien. On se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde.
Maintenant ils ont des intelligences artificielles affairées dans des bails de holding. Ils rêvent tous d'accéder au mind uploading. Toi, t'es là à regarder tes droits qui s'envolent, à désespérer de voir les gens qui s'en cognent. Mais les types te consolent et remplissent ta gamelle. Leur technique de contrôle ferait rougir Machiavel. C'est fou ce qu'on peut faire avec des caméras. Ça n'empêche pas les drames et les gens ça les calme. Des corps formels ou des corps mortels évoluent comme dans un livre de George Orwell. Tu sais pas dans quel monde vivaient tes grands-parents. parents. Tu vis entre des murs qui deviennent transparents. T'as des trous de mémoire, Wikipédia colmate. Mais t'as aucune idée de ce que c'est qu'une tomate. Et tu peux pas regretter ce que t'as pas connu. Tu vas pas remonter à contresens la cohue. Donc tu cherches ton rôle dans ce grand spectacle qui t'a persuadé que t'es respectable. Avant d'apprendre à penser, les gens plongent dans la normalité d'un torrent de mensonges où la vie ne sert plus qu'à fournir des idées pour nourrir la vitrine d'un fil d'actualité. Plus de petites ruelles, se voir à pied de tunnel. Ça va vite, ça va vivre dans le virtuel. On n'arrête pas le progrès, ouais c'est ça le slogan. Dans sa nouvelle voiture, papa lâche le volant. Mais pas de panique, de nouveaux robots rappliquent. L'humanité est en pilote automatique. Et tout le monde trouve ça cool, des US à la Chine. La foule s'agenouille au pied de la machine. T'es juste une variable, piégée dans l'immonde. Où les supercalculateurs jouent au ping-pong à coups de milliards de dollars. Des voleurs en délire s'en donnent à cœur joie. Qui t'a dealé de la douleur un jour, ça fera patatras. Et dans leur bunker, ils boufferont de la Batavia. Mais toi, si t'as pas plein de thunes et Bataka, te faire à l'idée que tu seras pas le bienvenu à Gattaca. Et tu fixes l'horizon bêtement en tenant ton ticket d'euros millions perdant. Tu te vois bien dans 3-4 ans à la campagne. Mais t'as pas d'argent, pas d'avantage. Avant toi, y'a tant de gars qui attendent à la banque. Sachant ça, t'attends pas à ce qu'il y ait moins d'attentats maintenant. Alarmant de voir la France à l'avant-garde qui dévale la pente à plat ventre. Paf, soit vivons nos vies légumineuses éclairées aux lampadaires et sans idées lumineuses. Allons rejoindre ces foules en bad trip qui pique-niquent le samedi sur la pelouse en plastique. Mais gardons le sourire, n'ayons pas l'air suspect. Si tu joues le jeu, t'auras peut-être un salaire super. Alors tu diras au revoir à l'autostop et à toi sera le monde en low cost. Hop hop, monte dans l'avion et va plutôt au nord. Ailleurs niveau chaleur, on n'est plus trop aux normes. S'agit de préférer la Suède au Mexique tant qu'il reste des bonhommes de neige anorexiques. Si t'avais du flair, t'aurais senti la fleur de l'âge. T'aurais dû faire vendeur de ventilateur. Ce sera pour une autre vie ou pour une autre dystopie potentielle qui sera dépourvue d'autre pluie. Trop d'ultraviolet, faut que t'achètes une clean. Déjà que tu te fais violer par des particules fines. Et même si t'y travailles, t'as pas le prix d'usine. Donc pour remplir ton panier chez Darty, tu trimes. La suite du film, ça sera pas comme au Cinoche. Mais qu'elles sont peut-être déjà coupées tes six planches. C'est sur un tissu de mensonges qui s'effiloche que t'es prié de bien vouloir mourir le dimanche. Tu te poses des questions, mais pour y répondre, y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre et les discours enflammés des technoprophètes. Sans personne qui puisse arrêter le chronomètre, c'est assez tragique. Y'a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les dés furent jetés quand nos parents choisirent de nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Et les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. Vous serez jamais libre, alors aimez vos chaînes et allez donc danser sous ces éoliennes. La nouvelle croissance, elle est belle, elle est green. Perpétrer des crimes, récupérer des primes. Les panneaux solaires, c'est pas trop trop cher. Ça coûtera juste une ou deux calottes polaires. Mais personne veut retourner à la bougie. Même si ça faisait quand même près de 300 000 ans qu'il y avait des êtres humains qui jouaient à la toupie sur une planète où ça se passait tranquillement. Et maintenant les gens sont piégés dans des villes. Ils ont troqué leur terre contre les étalages de ces supermarchés complètement débiles où on vend de la morse ou de beaux emballages. Et revoilà l'été, merde cette année c'est nul. T'as même pas eu le temps de déplier tes pulls. Ça t'évitera d'avoir à lire les petits textes d'appel à l'aide brodés sur l'étiquette. La violence aussi ça se délocalise. Mais toi t'es pacifique. Tu le cries sur les doigts pour faire de l'humanitaire. Tu prépares tes valises fabriquées par des gosses qui s'esquintent les doigts. Tu veux des enfants mais c'est décourageant. Tous les prénoms sont déjà pris par des ouragans. Les problèmes arrivent dans l'ordre alphabétique. Ça se passe comme sur des roulettes de paraplégiques. J'ai pas envie de cracher dans le dos de ceux qui savent faire. Apprendre la paix comme des handicapés mentaux. Je pense qu'il s'avère qu'ils peuvent sentir la merde dans laquelle on s'est mis au lieu de mentir à des fantômes. T'es bientôt Fanny sous le baby. Ta vie c'est un selfie pris devant un tsunami. Mais tout va très bien, disent les gens qui profitent d'un monde où les abeilles sont sous antibiotiques impuissants. Tu les vois se faire un paquet de pognon. T'as les yeux qui piquent même si c'est pas tes oignons. Tu peux pas demander de penser le changement à ceux qui veulent se contenter de changer le pansement. Ces gens-là sont convaincus qu'ils nous vaincront. Fallait pas prendre Ted Kaczynski pour un con. Quand tu t'endors, y'a des robots qui s'agitent dans les laboratoires de Boston Dynamics. Ça va se compliquer dans la rue, mec, y'aura bientôt des super flics et des super soldats. Ouais, les hommes de demain auront des autres crevettes, mais feront les malins dans des exosquelettes. Alors tu regretteras de pas t'être battu plus tôt. T'auras des privilèges que si t'as eu du pot. Sinon tu seras pisté même pour des idées. T'essaieras d'arracher ta puce RFID. Mais t'allumeras l'iPhone en disant c'est fini. Et puis tu discuteras un peu avec Siri. Et tu lui demanderas comment les êtres humains ont arrêté d'être libres pour devenir des putains.
Désolé, Je ne comprends pas votre question.
Zippo, j'ai pas eu le cœur de couper en fait. Le disque s'appelle Zippo contre les robots, je vous le recommande chaudement.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.